Le masque et la plume. Bonsoir à tous, bienvenue en public au studio Charles Trenet de la maison de Radio France pour un masque et la plume consacré ce soir à l'actualité du cinéma avec le concours d'éloquence de la critique auquel participent Sophie Avon de Sud-Ouest, Daniel Eman du site Bande à part consacré au cinéma avec Jean-Marc Lalanne des Arts Occuptibles, Pierrot Pierre Murat de Télérama. On parle ce soir des films de Robert Guédiguian, Anne Fontaine, Yvan Attal, Mélanie Laurent, de la Lune de Jupiter, du Bonhomme de Neige et des 12 jours de Raymond Depardon dans le courrier de la semaine. À propos du très sanglant Beautiful Day, Denis Cadoret de Douai juge que si le film de Lynn Ramsay est éprouvant et critiquable, il n'est aucunement abject, comme l'a dit au masque Xavier. Il n'est pas plus abject que les demoiselles de Rochefort n'est interdit aux diabétiques pour risque de surdose glycémique mortelle. C'est juste très sucré, comme Beautiful Day est très violent. Séverine Bruno.
Je m'insurge contre l'attaque pour les demoiselles de Rochefort.
Absolument, moi aussi.
C'est un film aussi salé que sucré.
Oui, absolument.
Séverine Bruno approuve en revanche. Et Eric et Xavier, ils ont raison. Beautiful Day est un film épouvantable sur le fond et la forme ajoute à la dégueulasserie du message, agression visuelle et auditive du spectateur, abus de gros plans comme cache-misère scénaristique, c'est absolument épouvantable. Je ne suis pas loin de penser comme vous, Séverine. Pascal Hénard de Bourg-les-Valence n'est pas plus indulgent. Et de Troyes, après The Square, mise à mort du cerf sacré, Lynn Ramsay clôture cette liste noire de Cannes 2017 dans Beautiful Day. Pas de scénario crédible. Joaquin Phoenix joue avec la pancarte prix d'interprétation. Enfin, le film accumule tous les clichés. Tiens, à propos du musée des merveilles, Jean-Luc Clairet s'étonne que Charlotte Lipinska se demande à qui s'adresse le dernier Todd Haynes, à moi. Ex-enfant de 63 ans, le musée des merveilles est une pure splendeur et vous êtes des enfants gâtés. Je fus instituteur et si je l'étais encore, j'aurais ajouté ce film sublime à leur imaginaire.
Je suis absolument d'accord avec le monsieur.
Nina Smidren, qui nous écoute depuis la Guadeloupe. Je suis sans doute une amatrice de camping-car qui s'ignore, allusion à la métaphore utilisée par Eric Neuhoff ce soir-là pour parler du style du film. Mais j'ai été très touché par ce film, récit de deux enfants qui ne partent pas avec toutes les chances dans la vie. La réalisation est extrêmement soignée avec une BO tout à fait efficace. Au contraire, Jean-Marc Adrien Colère des Sables d'Olonne nous en veut. Cher masque, tu m'as fait perdre le sens du temps qui passe et je t'en veux. Au moment d'attaquer la troisième heure du Musée des Merveilles, je suis sorti de la salle en me disant que point trop n'en faut. Une fois dehors, j'ai regardé ma montre, elle ne faisait en fait que 25 minutes que le film avait commencé. On aurait dû intituler ce truc « Hashtag purge ». Sinon, bah, Philippe Morel emballé par Jalouse, magistralement interprété par Karine Viard, avec un scénario crédible et sophistiqué. En revanche, Christelle, beaucoup moins emballée. Il faudrait qu'on m'explique comment un co-scénariste, écrivain de surcroît, David Fuenquinos, peut faire dire à une normalienne professeure en cagne, par trois fois au moins, la phrase « je m'excuse » et puis pourquoi Karine est-elle si mal habillée. Enfin, sur un débat récurrent au Masque et la Plume, Pierrot, Ryan et Cal nous écrit de Beyrouth. Cher Masque, je vous écoute du Liban et je porte la plus grande estime à votre esprit critique et à votre incomparable humour. J'écoute religieusement l'émission les dimanches à 21h, heure de Beyrouth. Et en plus, je la réécoute les lundis en podcast. Ça, c'est infidèle. Hein. Mais la révélation d'importantes scènes d'un film gâche le plaisir de le visionner. Je sais que la qualité d'un film ne devrait pas se cantonner à une scène en particulier ou même à sa fin, nous dit Ryan Ekal, mais vu la rareté de telles expériences au Liban, il serait de bon goût de ne pas gâcher ce plaisir à vos auditeurs si éloignés de Paris. Regarder un film est une expérience religieuse pour moi. Pourquoi devrais-je imaginer Jean-Louis Trintignant roulant vers sa mort à la fin de Happy End? Ça, c'est de ma faute, hein, c'est moi qui l'avais raconté. Entre une muratade et une garcinade. Le plaisir de cinéphile est quelque peu spolié. Je continuerai néanmoins à considérer votre émission comme le seul bon remède à la mélancolie du dimanche soir à Beyrouth. Voilà, tu vois, je crois qu'on n'en aura jamais fini, Pierre.
Jamais. Mais je continuerai à ne pas révéler la fin des films, car c'est une fausse réputation que j'ai. Attends, je l'ai fait une fois pour Sean Penn, ouais, on va pas revenir sur la question.
Enfin, je suis sûr que tu vas raconter la fin de Plongée. Allez, on va vite, si vous voulez bien, vite passer sur Le Bonhomme de Neige de Thomas Alfredson, le réalisateur de Morse et de la Taupe, avec Michael Fassbender, Rebecca Ferguson, Charlotte Gainsbourg, l'adaptation du polar du Norvégien très en vogue, Jo Nesbø. Ça se passe à Oslo, la neige tombe, ce qui était presque un pléonasme. Une mère de famille disparaît en pleine nuit, le seul indice, c'est son écharpe au cou d'un bonhomme de neige, jusqu'au jour où l'inspecteur récurrent de la série, c'est Harry Hall, donc Fassbender, reçoit une lettre signée de bonhomme de neige qui lui annonce de nouvelles victimes. Moi, j'ai le sentiment de voir un film pas fini.
Mais absurde aussi. Enfin,
mais Sophie,
il est pas fini, il est mal foutu et il est absurde.
Tu comprends ce que je veux dire ?
Oui, je comprends vraiment ce que tu veux dire, parce qu'en plus, on a l'impression qu'il y a des scènes qui vont vers quelque chose, vers un accomplissement, et puis tchouk, en plein milieu, elles sont interrompues, serait-ce que la scène du début. On comprend pas du tout pourquoi ce type violent, qui manifestement n'est pas le mari de la femme avec qui il couche, première scène, hein, je révèle rien de fondamental, tout à coup s'en va, il est poursuivi par le fils qui s'est pris une torgnole, ou la femme s'est pris une torgnole, on comprend absolument rien de ça. Enfin, il y a quelque chose de contradictoire dans chaque scène qui contredit le début de la scène.
Oui, mais tu
vois ce que je veux dire?
Tu ne dis pas, si j'ose dire, l'essentiel, c'est-à-dire que c'est tiré d'un polar et qu'il n'y a aucun suspense, quoi.
Ah non, mais le polar.
Ah non, mais il n'y a aucun suspense, c'est-à-dire que c'est une machine à essayer de se concentrer pour essayer de comprendre ce qui se passe, et on n'est jamais, alors là encore, on n'est jamais récompensé de l'effort qu'on fait, parce qu'on a l'impression qu'il n'y a plus rien à comprendre, tellement c'est absurde. Je mets au défi quiconque de m'expliquer exactement ce qui se passe, franchement. Pierre, franchement.
Non, mais je ne vais pas le raconter.
Très compliqué.
Non, mais attends,
t'es d'accord qu'à la fin, on comprend quand même pourquoi.
Non, mais on comprend à la fin un truc, pas tout.
Non, mais juste pour dire que le roman que moi j'ai lu...
Ah, tu l'avais lu?
Ah ouais, non, moi je suis un fan de romans polars scandinaves et notamment de ce mec-là. Le roman est absolument formidable. Vraiment formidable.
Sûrement.
C'est simplement, je crois, le problème, c'est qu'ils sont mis à 4 ou 5 scénaristes pour vouloir en effet adapter le plus fidèlement cette histoire, alors qu'il fallait évidemment la trahir. C'est-à-dire, il fallait garder l'histoire de Harry Hall, qui est le héros récurrent, interprété par Michael Fassbender, toujours très bien selon moi, et puis laisser tomber l'autre inspecteur fantôme d'il y a 10 ans, qui avait lu les mêmes histoires, etc. Il aurait simplifié le scénario, ça faisait un polar tout à fait estimable. Là, le fait de cette accumulation, en effet, d'intrigue, fait qu'au bout de 3 quarts d'heure...
Alors, oui.
Non, mais au bout d'une demi-heure, moi j'ai marché pendant une demi-heure, puis quand j'ai vu qu'il s'embarquait dans le passé, 20 ans avant, les mêmes faits, un autre type qui est mort depuis, dont on se fout puisque c'est pas le héros, etc., je me suis dit, il va à la catastrophe, et ils sont à la...
En plus, c'est même pas bien filmé.
Enfin, alors que le mec a plutôt du talent, et là, c'est une catastrophe par prétention, et curieusement, par fidélité au bouquin.
Il faut des personnages quand même pour que ça tienne.
Oui, c'est très décevant sur la mise en scène, parce que Thomas Alfredson, c'était plutôt un cinéaste prometteur. Morse, qui était le film par lequel on l'avait découvert sur deux enfants vampires, c'était très singulier, très original. Et là, on voit vraiment la singularité d'un auteur se dissoudre dans une machine complètement anonyme. On n'en peut plus de ses plans de drone sur des ensembles urbains ou sur des paysages enneigés. Tout est vraiment une grammaire extrêmement prévisible. Moi, je pense qu'il y a un truc qui marche pas du tout. C'est le fait d'avoir toujours laissé l'intrigue en Norvège, mais de la faire jouer par une actrice française, une actrice américaine, un acteur anglais, de tous les faire parler anglais.
Il
y a une espèce de délocalisation. Pourquoi on l'a pas adapté dans les Rocheuses ou en Angleterre? C'est absurde. Reste Michael Fassbender, qui est d'une beauté, d'un charisme, qui fait qu'on peut regarder le film que pour lui.
T'es complètement amoureux de Fassbender, toi.
Complètement.
Non, mais il est beau, mais
il est très bien.
Quant à Charlotte Gainsbourg, on se demande dans quel film elle ne joue pas. On va la voir dans La Promesse de l'Aube dans quelques semaines.
Elle joue pas beaucoup dans celui-là.
C'est le nombre de films qu'elle a.
Non, mais là aussi, à un moment donné, elle monte sur, si je puis dire, sur Fassbender pour le séduire. Mais oui, elle se met à cheval sur lui pour le reséduire ou pour le séduire. Enfin, et puis tout à coup, elle s'en va. Là. Non, mais enfin, il y a une.
Ça, c'est le propre de l'équitation. Hein. On monte, on descend.
Ce n'est pas encore un cheval à ce moment-là. Donc, je trouve ça. Voilà, ça fait partie de ces scènes absurdes. Le film est absurde.
Quand on chevauche Fassbender, on ne s'en va pas.
Je suis contente pour Sophie parce qu'elle a quand même remarqué. marquer une scène agréable.
Daniel.
Oui, alors, on oublie de dire que ça dure 2h32. C'est absolument insupportable, quoi. C'est, voilà. Alors,
effectivement. Oui, c'est très très long.
Ah, c'est très très long. C'est très 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 long.
Puis il fait très froid.
Objectivement
là-bas.
Et scénaristiquement. Alors, effectivement, la seule chose vraiment bien filmée, c'est la neige. Parce que, forcément, hein, le bonhomme de neige. Et les bonhommes de neige, parce qu'il y en a beaucoup, parce que chaque fois qu'il y a un meurtre.
C'est un Norvégien qui filme. Donc,
voilà, voilà. Alors, donc, ça, je trouve que les paysages de neige sont assez formidables. Mais on est embarqué dans une chose qu'on ne comprend pas, et après, quand même, bon, Pierre a eu l'indulgence d'être intéressé pendant une demi-heure, mais il y a un moment où on s'en fout, mais absolument, mais c'est extraordinaire.
Ouais, ouais. Mais on s'en fout parce qu'il n'y a pas de suspense.
Mais il n'y a pas de suspense.
S'il y avait du suspense.
Alors, il essaye de mettre du suspense dans le suspense dans le suspense, c'est-à-dire qu'on dit que cette femme-là est morte et elle a été assassinée, et la femme dit,
ça, c'est
mais
bien,
non,
ça.
Mais non,
ça, c'est bien.
Mais je ne suis pas assassinée, je suis là. Ah bon? Ah ben alors pourquoi vous dites que vous êtes assassinée? Mais je n'ai pas dit que j'étais assassinée, c'est n'importe quoi. Et le grand, le magnifique, le sublime Fassbender, il y a quand même un moment dans le film où on se dit, mais qu'est-ce que je fous là? Mais qu'est-ce que je m'emmerde? Mais est-ce que ça va pas finir? Bon, bah non, ça ne finit pas. Et alors Charlotte Gainsbourg arrive, oh bonjour, qu'est-ce que... Ah bah, je sais pas non plus ce que je fais là, mais enfin, je suis contente quand même dans un film international. Je veux dire, mais c'est incroyable, quoi. C'est incroyablement ennuyeux et incompréhensible.
Je pense que ça va marcher malgré tout.
Sûrement.
Et on redoute un deuxième épisode.
Non.
La fin.
Ne me dis pas.
Le bonhomme de neige de Thomas Alfredson. Pas de réaction sur ce film, non. Très différent, Marvin ou la belle éducation, le nouveau film d'Anne Fontaine avec Jules Poirier et Finnegan Oldfield, qui se succèdent dans la peau du même personnage à 15 et 25 ans, mais aussi Grégory Gadebois, Catherine Salé, là ils jouent les rôles des parents, Vincent Macken, Catherine Mouchet en prof de collège, Charles Berling en homo fortuné, et puis en guest star, mais au sens propre, Isabelle Huppert, hein, puisqu'elle est vraiment Isabelle Huppert, la star, en tout cas à la fin du film. Au début, je dis bien au début, le film est inspiré par le récit autobiographique d'Édouard Louis, En finir avec Eddie Bellegueule, lequel Édouard Louis, après d'ailleurs avoir touché ses droits, a expliqué par un simple tweet qu'il n'avait rien à voir avec ce film. L'histoire est pourtant très proche, celle d'un adolescent homosexuel, Martin Clément, qui habite un village, alors c'est en Picardie pour le livre, dans les Vosges pour le film. Il est brimé, harcelé, molesté au collège, presque tyrannisé chez lui, où on lui reproche, je cite, ouvrez les guillemets, de marcher comme une tarlouse, fermez les guillemets, chez lui, c'est-à-dire dans une famille hautement alcoolisée du lumpen prolétariat. Il ne lui reste plus qu'à partir pour Paris, où il devient Martin Bijou, désormais incarné par Oldfield, où il fréquente le milieu gay, rencontre donc ce client et pygmalion qui est Charles Berling, et trouve son salut, c'est exactement comme dans le film d'ailleurs de Gallienne, entre parenthèses, sinon sa rédemption dans le théâtre, théâtre où il devient célèbre avec une pièce sur sa propre histoire. Voilà, ça dure 1h53. Je remarque que dans les Arocs, que c'était pas à tendre. Hein.
Oui, oui, c'est moi qui ai écrit.
Ce que tu as écrit
moi, je trouve le film.
Il assume, il assume.
Mais j'ai rarement vu un papier aussi violent.
C'est peut-être lié à mon attachement pour le livre que j'aimais beaucoup, et je pense qu'elle passe, enfin, elle passe complètement à côté déjà de l'écriture d'Édouard Louis. Jamais le film ne restitue la voix, alors que le roman marche davantage que sur les péripéties, marche vraiment sur l'authenticité de la langue et de la souffrance qui est exprimée. Et là, cette souffrance, elle me semble totalement estompée par un montage qui ne cesse de sauter dans différents moments prélevés dans toute la vie du personnage, et qui, à mon avis, fait que le film souffre d'un très grand éparpillement. Et je pense que c'est une très mauvaise idée aussi d'avoir prolongé le personnage et finalement d'adapter autant à 50% la biographie d'Édouard Louis, puisque le roman s'arrête lorsque le personnage a 15 ans. Et on comprend qu'il est sauvé parce qu'il va intégrer un lycée qui va l'extraire à son milieu social. Mais ce que Anne Fontaine adapte, c'est toute la suite, le succès à Paris.
Qui est l'équivalent du succès voilà, du livre.
Adapté, voilà.
C'est ça qu'elle a voulu raconter.
Oui, donc plus du tout le roman. Elle s'intéresse plutôt à l'anecdote biographique cinématographique et pas tellement à ce qui faisait la puissance du roman. Donc pour moi, elle escamote complètement la puissance du
livre. C'est ça qui t'a le plus choqué dans ce film.
Je pense que ça, c'est le ratage du film. Après, je trouve que le film reconduit tout ce que dénonce Édouard Louis, c'est-à-dire que le racisme social, voire l'homophobie, moi je les vois dans le film. Je trouve que le trait satirique sur un couple d'intellectuels gays, il est extrêmement appuyé. Je trouve vraiment que le naturalisme saignant avec lequel elle filme la famille du personnage principal, c'est très gênant. Enfin, vraiment, c'est livré au cabotinage des personnages. C'est quasiment la vie dans l'offre tranquille, quoi. Le typage de cette famille prolétarienne. Oui. Donc moi, je trouve qu'il y a une nuance de mépris dans le regard qui est extrêmement désagréable.
Pierrot, moi, je suis pas d'accord du tout. Je trouve que c'est une adaptation. Enfin, c'est pas une. Enfin, elle a pris. Tu dis 50%. Elle a pris 15, 18, 20%.
C'est-à-dire.
Et c'est pour ça d'ailleurs que très honnêtement,
elle-même dans le programme, elle dit qu'elle n'a plus adapté le livre.
Bien sûr. Donc c'est pour ça que très honnêtement, elle a pas profité du succès en l'appelant, en finir avec. Elle l'appelle Marvin ou la Belle Éducation. Et c'est ça qui me touche beaucoup, c'est qu'en effet, elle en a fait un roman d'apprentissage et un roman d'éducation. C'est-à-dire qu'en effet, moi, ce que j'aime chez Anne Fontaine, en tout cas dans ce film-là, c'est que tous ces personnages évoluent. C'est-à-dire que ils ne restent pas tels qu'ils sont. Et même le personnage de Grégory Gadebois.
Il
évolue à peine, mais il évolue justement beaucoup. Et moi, je trouve que Grégory Gadebois, par la finesse de son interprétation, moi, je trouve qu'il rappelle absolument les grands comédiens de l'époque. Moi, j'ai pensé vraiment à un comédien pas très connu actuellement des jeunes, mais qui s'appelle Harry Bore, qui avait cette espèce de puissance physique et en même temps de douceur dans le regard. Et lorsque Marvin arrive à la fin, le fait même qu'il commence à dire les gays, alors que Marvin lui dit, ah bah, c'est pas comme ça que tu les traitais avant, c'était plutôt les sales pédés. Et oui, on voit dans le regard, à ce moment-là, de Grégory Gadebois, quelque chose qui passe, qui est de l'ordre du regret, un petit peu de honte. Bon, et puis, bon, ça, c'est une chose, parce que je sais qu'on lui reproche cette vision-là, mais moi, je trouve que, autour de cette table, moi, je connais pas exactement ce qui se passe dans les Vosges et dans les lycées, mais je crois savoir, savoir que, par exemple, le harcèlement sexuel des gamins est plus que ce que Anne Fontaine a montré. Et ce que j'aime surtout dans le film, c'est vraiment les éclairs et les éclats de sensibilité. Je vais pas raconter, mais je vais raconter une scène. Lorsque Marvin arrive et voit son professeur de théâtre, Vincent Macaigne, qui brusquement dit ouvertement à l'auditoire ce que Marvin se cache à lui-même encore. Et ensuite, il va le voir, il se plante devant lui, il lui dit simplement cette phrase, « Je suis comme vous ». Et l'autre le regarde, il sait pas exactement quoi lui dire, et il éclate en sanglots, en longs sanglots, et l'autre essaie de plaisanter, de le consoler. Je trouve que c'est un moment de sensibilité absolument magnifique.
Et le regard de, alors pour le coup, de Catherine Mouchet comme prof de collège.
Et voilà. Et c'est des bonnes fées.
Très émouvant.
C'est Catherine Mouchet, Isabelle Huppert aussi sont des bonnes fées. Alors le milieu gay parisien, c'est pas très, très, très important qu'il soit un peu caricaturé.
Daniel?
Non, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de choses très, très positive dans ce film. Moi, j'ai été choquée. La seule chose vraiment qui m'est choquée, alors que j'aime beaucoup Grégory Gadebois, je trouve que la caricature de la famille prolétaire est absolument insupportable. Trop, c'est trop. Oui, on a compris. On a compris que c'est un autre monde et que... Oui, mais c'est pas la peine d'en faire des demeurés totaux, des affreux. Moi, j'ai été très choquée par la caricature. En revanche, je trouve que ce qui est très, très beau, puisqu'on voit les deux personnages, enfant et adolescent, c'est cette liberté qu'elle a prise de n'avoir aucune frontière entre les scènes où il est enfant et où il est adolescent. Ça, je trouve que c'est extraordinairement réussi parce que on voit effectivement le petit garçon qu'il a été, brimé, oui, etc.
Qui est d'ailleurs formidable. Hein.
Formidable.
Parce que c'était pas évident.
Voilà, Julien Poirier, il est extraordinaire. Il est tout jeune et ce qu'il devient. Et je trouve que cette absence de transition, de allez, on va changer. Non, voilà. Et ça, c'est formidable. Je trouve que les rôles secondaires sont remarquables. Je trouve Catherine Mouchet absolument étonnante.
Mais bouleversante.
Mais bouleversante de sobriété, d'humanité. Elle est là, elle veut le sortir de là et c'est magnifique. Et je trouve que tous les rôles secondaires sont Charles Berling, Vincent Macaigne.
Juste un point de détail, mais Jean-Marc parlait du livre d'Édouard Louis, mais le portrait des siens et de ses parents dans le livre est terrible.
Le roman est beaucoup plus chargé, en fait. Sauf qu'il est compensé par un sentiment très fort d'appartenance avec ce milieu. Non, non, c'est l'enfer et aussi, en même temps, il y appartient.
Si là aussi,
alors
que
là, c'est un regard totalement extérieur
voilà. Alors,
qui fusille les personnages.
On est d'accord, Jean-Marc. Non, mais en effet, sur ce point-là, Anne Fontaine a un de temps en temps à repentir, et il y a des tout petits moments où, en effet, il y a une toute petite scène dans le train où le père, ben oui. Donne un peu d'argent à son fils, et tout à coup, on se dit, ah bon, il y a une espérance.
C'est
voilà.
Ce que Pierre appelle l'évolution.
Voilà.
Sophie.
Oui, je suis pas tout à fait d'accord avec ce regard dont tu as l'air de dire que c'est celui d'Anne Fontaine sur cette famille, parce que elle le fait passer justement derrière ce petit garçon qui est un petit garçon merveilleux qui regarde et qui regarde énormément. Et vraiment toute cette partie-là, je trouve qu'elle est tempérée par le regard merveilleux de cet enfant sur ses parents, dont on sent qu'il les aime. Et il se balade ensuite.
Moi, je pense qu'on n'a jamais accès à son intériorité. Alors que dans Eddie Bellegueule, on était toujours à l'intérieur du personnage.
J'ai lu le roman que je trouve très beau aussi. Je suis d'accord, et je ne suis pas emballé à 100% par le film. Hein. J'ai des réserves aussi sur le film. Je trouve que c'est un film très chaotique, très en dents de scie. À des moments, j'ai été surprise moi-même. Il y a des moments où j'ai été bouleversée. Puis à d'autres moments, je me disais, mais ça marche pas du tout, ça fonctionne pas, etc. Je suis comme Daniel, je trouve que les allers-retours entre les deux périodes marchent plutôt bien et donnent une fluidité au. Et il faut entendre la souffrance. Je trouve qu'on entend, contrairement à ce que tu disais, Jean-Marc, je trouve qu'on entend la souffrance. Je trouve que Grégory Gadebois arrive en effet à faire une composition assez bouleversante et pleine d'humanité.
Alors moi, je trouve que c'est vraiment honteux. Ce qui fait Grégory Gadebois, il est dirigé comme ça, c'est pas personnellement
sa faute.
Oui,
c'est pas lui, parce qu'effectivement, c'est la direction que, bon, je trouve cette scène où il emmène son fils à la gare et où on voit le train partir, le
boss qui lui tourne le dos. Il écoute Sexual Healing de Marvin Gaye, il répète Marvin Gaye, enfin avec un genou pourri, mais vraiment...
En revanche... Là où ça ne marche plus du tout, à mon sens, c'est toutes les rencontres, quoi. Je trouve que Vincent Macken, et c'est pas eux non plus qui
Charles
sont en
Berling,
pause.
Charles Berling, tu veux dire?
Charles Berling, qui pourtant fait bien son truc. Je trouve que c'est, et là, il y a un vrai problème des acteurs qui font écran à leurs personnages, et c'est pas de leur faute. Bon. Je pense que c'est la direction d'acteurs. Je trouve que là, ça ne
là
marche.
Là où je rejoins Sophie,
c'est pas plein
du
de films
tout.
Encore. Oui, mais
quand Isabelle Huppert arrive et tend sa main en disant Isabelle Huppert, moi j'ai éclaté.
Et Berling, la scène d'amour avec Berling, mais ça.
Et Finnegan Oldfield, il faut le dire, est vraiment très bien.
Dans la vraie vie, elle est plus dure que ça.
Finnegan est très bien, mais la scène.
Marvin ou La Belle Éducation d'Anne Fontaine, le film discuté à cette tribune. Des réactions peut-être dans le public, non. 2 ans après, Ils sont partout, qui était un film à sketch assez effrayable sur la résurgence de l'antisémitisme. Le comédien-réalisateur Yvan Attal signe Le Brio, un film qui est pour moi son exact contraire, avec Camélia Jordana et Daniel Auteuil. Tout commence dans un... grand amphi de la fac de droit, quand je dis grand, même immense, la fac de droit d'Assas, à Paris, le professeur Pierre Mazard, qui était un réac pontifiant, connu pour ses provocations, ses dérapages, c'est Daniel Auteuil, donne cours à des élèves de première année, et une étudiante arrive avec 5 minutes de retard, elle s'appelle Neila Salah, elle vient de Créteil, elle est en survette, et elle veut devenir avocate, et c'est Camélia Jordana. Mazard, trop content d'avoir trouvé une victime idéale, va l'humilier en public, la scène dure quand même 5-6 minutes, il est convoqué, Mazard, par le directeur d'Assas, qui est joué par Nicolas Vaude, menacé évidemment du conseil de discipline. Et pour échapper à la sanction, il doit s'engager à préparer Neila au fameux concours d'éloquence du barreau, c'est-à-dire lui enseigner les lois de la rhétorique. Et le film va raconter le parcours jusqu'à l'épreuve finale de ce prof très bougon et de son élève en colère avec un couple Auteuil-Jordana que personnellement j'ai trouvé formidable. Daniel.
Oui, et vraiment, alors j'étais encore scandalisée par Ils sont partout parce que...
C'était même gênant,
C'était embarrassant, je veux dire. C'était bon, les meilleures intentions, mais sur les clichés antisémites, on avait droit à tout et ils ne réussissaient jamais à retourner la situation et c'était plus qu'embarrassant, donc j'étais très très réservée. Et là, il y a une sorte de naïveté presque, je veux dire, il prend le sujet, on se dit bon sang, ça va être le cliché du prof raciste et de la petite beurette, et puis non. Tout à coup, ce couple fonctionne, il y a quelque chose un élan vers de sortir de là et avoir la parole. Et c'est formidable. Alors moi, j'ai trouvé que pour Daniel Auteuil, c'était un nouveau départ. Tout
ah oui,
à
parce
coup,
que quand on voit les derniers films qu'il a
mais,
fait.
Mais oui, mais tout à coup, voilà, tout à coup, on se dit, voilà, il est parti maintenant, il peut jouer jusqu'à 90 ans, il a pris une puissance, il a pris une, je sais pas, une profondeur, il est
c'est
remarquable.
C'est un peu Jean Gabinisé, et Jordana est
et elle
formidable.
Et elle est formidable parce que elle est neuve, elle a pas peur, elle y va carrément, et vraiment, c'est un film extrêmement sympathique. Alors, l'éloquence, je trouve, le concours d'éloquence, ça a réussi au cinéma, parce que, bah, je sais pas si vous vous souvenez,
à voix haute. Il y avait un documentaire à voix haute.
À la force de la parole,
de Stéphane
de Pratas. C'était Pierre. Remarquable.
Ben, je suis nettement moins convaincu, moi, parce que je trouve que le...
Je vois ça à ton air.
Ouais, ben, le personnage de Daniel Auteuil que tu as décrit, et les 5-6 minutes du début, lorsqu'il est absolument raciste, insupportable...
Alors, quand il devient sympa, tu l'aimes
plus.
Ah
oui, non, parce que ça va pas du tout. Enfin, je veux dire, là, on se dit, ah tiens, on est parti sur quelque chose. C'est rare de montrer un personnage comme ça dans le cinéma, aussi réac, aussi... Et on se dit, qu'est-ce qu'il va en faire?
Alors... C'est en plus une caricature de la fac d'Assas, oui, connue ses déviances droitières.
Voilà, alors là, c'est très bien. Puis alors, il y a le prétexte qui fait, ouais, tu vas être envoyé, donc tu vas t'occuper de cette fille. Bon, très bien. Donc ça devient un remake de Pygmalion de George Bernard Shaw et de My Fair Lady de Cukor, quand même. C'est l'éducation d'une petite...
C'est un peu
C'est un très beau sujet, sauf que là...
C'est un peu la rencontre de Bossuet et de Booba, quoi.
Voilà, mais sauf que je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus éloquent, justement. C'est-à-dire que Attal est forcé, parce que le dialogue, l'éloquence, les discours d'éloquence, là, sont pas très bien, pour que Camilla Giordana, le personnage, arrive à vaincre les autres, il fait les autres de plus en plus nuls, forcément. De plus en plus tête à claque lors des épreuves, des
cesses de jeu.
Non, parce qu'à ce moment-là, évidemment, à triompher, c'est pas vraisemblable.
C'est l'apprentissage qui compte.
C'est
un film gentil, mais enfin ça fait du bien aussi.
Oui, gentil, mais il faut pas être niais. Ça devient un petit peu niais. Et alors, Camilla Giordana, elle est d'une beauté et d'une sensualité étonnante, ça, c'est sûr. Mais alors, pour l'instant, elle se contente évidemment de balancer ses phrases le plus vite possible et de toutes les 5 minutes de rire à la Binoche. Ça suffit pas.
Mais c'est le rôle, c'est pas.
Mais non, c'est pas le rôle. On pourrait imaginer quelque chose de beaucoup plus novateur et de beaucoup plus intelligent qui se passe entre les deux personnages. Il ne se passe rien. C'est mécanique jusqu'au bout.
Sophie.
Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à le voir, ce film, parce que d'abord, c'est un film comme tu l'as écrit sur le verbe, et c'est vrai que ça, sur le langage, c'est très jouissif. On est emporté par.
Et il n'y en a pas tant que ça.
Je trouve qu'on n'entend pas beaucoup les autres. C'est surtout l'apprentissage, les stratagèmes de Schopenhauer, tout ça. C'est ça qui est jouissif, je trouve, et la façon dont il lui apprend à maîtriser les codes et tout. Bon, très bien. C'est un film sur le verbe et ça. Mais moi, ce qui m'a intéressé le plus dans le film, c'est pas ça. Et moi, c'est la première scène, enfin, qui est pas la première d'ailleurs, parce que les premières séquences, c'est vraiment le cahier des charges. Mais la toute première, c'est Claude Lévi-Strauss.
Ah, le générique.
Espèce de générique qui met la barre assez haut, mais qui dit long sur les intentions d'Ivan Attal. Mais cette première scène dont vous avez parlé, qui est très longue, elle est intéressante, mais moi, je la vois pas comme vous. Mais c'est ça qui m'a intéressée, c'est la façon dont Ivan Attal regarde la société française d'aujourd'hui. Et avec cette scène, c'est vrai qu'il est réac, c'est vrai qu'il est cynique, c'est vrai qu'il est désagréable, c'est vrai qu'il est provocateur, mais il ne prononce pas une seule parole raciste. Et finalement, ce qui est intéressant, c'est que ce sont... les gens qui veulent défendre la petite, comment elle s'appelle, Neila Sala, qui la signe à une place de victime. Et c'est contre ça, je crois, qu'Ivan Attal met en garde de cette société où on va toujours vers l'euphémisation d'un côté et la victimisation. Et c'est un film qui est vraiment à rebours de l'ascension sociale, du déterminisme social. Si on se contente de se laisser assigner à une place de victime, on n'y arrivera pas. Mais si on se remue, on y arrive.
Mais le film aplanit absolument tous les obstacles de cette désassignation.
Alors par ailleurs, c'est vrai que c'est un conte de fées. C'est vrai. Mais je trouve qu'il y a au moins je trouve que le film est astucieux grâce à ça, et je trouve que ça muscle quand même la trame.
Tu dis astucieux, moi je dirais vraiment horriblement roublard, quoi. Je trouve que le film...
Ah non, c'est pas roublard, c'est honnête.
Il y a vraiment un dosage
de cynisme. Il bout depuis 5 minutes, là.
C'est pas mièvre, mais là où tu as raison, c'est que le cynisme rejoint à un moment donné la réussite.
Lâche-toi, vas-y.
Tu parlais de cette image d'archive qui ouvre le film, qui est extrêmement puissante, où Claude Lévi-Strauss, à la fin de sa vie, dit qu'il n'aime pas du tout le monde qu'il est en train de quitter.
Ben,
Yvan Attal, apparemment, il adore le monde dans lequel il est en train de vivre.
Ah c'est-à-dire
la dimension de critique radicale qui est exprimée dans l'image d'archive au début, elle est absolument pas dans le film. C'est-à-dire que le film aplanit toutes les difficultés. Ce personnage, dans la première scène, effectivement, c'est un peu troublant d'entendre un personnage de professeur aussi violent, mais très très vite, il est extrêmement séduisant, extrêmement sympathique.
Moi, Auteuil, mais ça montre que les préjugés sont de l'autre côté, Jean-Marc.
Mais je suis d'accord avec toi quand tu dis qu'il n'est pas raciste, parce que vraiment, je trouve que le film à la fois fait rire sur des blagues quand même vaguement racistes.
C'est-à-dire que c'est les autres qui l'assignent à cette place.
Mais de manière un peu roublarde, le film cherche à faire rire le spectateur de ces blagues-là, tout en mettant en face une très très grande niaiserie dans une surenchère de bons sentiments que moi vraiment je trouve qu'il y a une indigestion quoi de c'est feel good à un point où ce n'est plus que dans une fausseté absolue.
Eh bien c'est le brio d'Yvan Attal. Oui, une réaction, le micro vient vers vous, monsieur, bonsoir.
Et je partage plutôt l'avis de madame Avon. J'ai vu le film, je pense que ce n'est pas quelqu'un de raciste, c'est quelqu'un d'extrêmement provocateur et qui joue sur un rôle. Et là, finalement, il sort un peu de ce rôle en aidant cette jeune fille. Et donc, moi, j'ai plutôt apprécié. Alors, c'est vrai que c'est pas toujours d'une grande finesse, mais...
Oui, mais c'est sans être pour autant...
Sans
tomber dans le manichéisme qu'on aurait pu craindre au début.
Absolument, absolument. Et ça change du film classique.
On pâte aux gens dans le manichéisme.
Voilà. Merci pour votre intervention et votre finesse d'analyse. D'autres réactions ? Non ? Allez, plongez, on va aller vite. Le quatrième film en tant que réalisatrice de Mélanie Laurent, et c'est l'adaptation du roman de Christophe Honoré d'Ibio avec Gilles Lellouche dans le rôle de César, qui est un grand reporter de guerre qui a cessé de courir le monde et qui a rejoint sa rédaction parisienne, et Maria Valverde, que je ne connaissais pas, dans le rôle de Paz, une photographe espagnole qui rêve, au contraire, de voyages, de plongeons avec les requins. Elle est même, d'ailleurs, je ne connaissais pas le truc, elle est même reliée par GPS à l'un d'entre eux. Mais voilà, elle ne peut plus bouger, et pour cause, elle met au monde leur enfant, et César et Paz, qui sont follement amoureux, et qui semblent avoir la vie devant eux, évidemment, vont avoir des problèmes, et puisque peu de temps après la naissance, une naissance qui l'étouffe, je devrais être rempli, dit-elle, je me sens vide, Paz disparaît sans laisser d'adresse, et César va partir la chercher. C'est là où je te demande, Pierre, de ne pas dévoiler l'épilogue, qui d'ailleurs, entre parenthèses, était au début du roman de Dodibio. Donc ceux qui ont lu le livre pourront comprendre des choses peut-être. Alors Pierre.
Alors je vais vous dire comment ça se termine, comme ça vous n'irez pas le voir, parce que c'est pas très 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 bon. Voilà. Alors le pire c'est le début, parce que donc l'amour heureux, la passion entre les deux. Alors Mélanie Laurent a certainement admire beaucoup Terrence Malick et elle filme à peu près comme Terrence Malick filme maintenant, c'est-à-dire vous savez ces courtes scènes où les personnages se frôlent, tournent autour l'un de l'autre, échangent des petits mots, mais avec des scènes très brèves comme ça. Et elle croit qu'en le faisant, elle égale Terrence Malick. Alors il faut lui dire clairement, elle ne l'égale pas, c'est pas bon du tout. Voilà. Lorsque l'intrigue se commence, elle part, là il la cherche. C'est un petit romanesque, tranquille, gentil, sans intérêt. Mais bon, il y a deux, trois moments beaux avec dans la mer. Quand
ah, là, c'est la, ça, c'est la fin, ça.
Bah, la fin, mais je ne c'est raconte la pas la fin. Si, je vais vous la raconter ouais, quand la même fin. Pour pas que vous y alliez. Voilà. Et lui est pas trop mal, comment il s'appelle ?
Gilles Lellouche.
Gilles Lellouche.
On l'attend pas dans ce rôle-là. Hein.
Non, on l'attend pas dans ce rôle-là. Il s'en sort plutôt bien. Mais alors vraiment, le début où elle se prend pour Terrence Malick, ça va hanter mes nuits, ça, pendant quelques temps.
Jean-Marc a refusé de le voir.
J'ai pas pu le voir.
Daniel.
Ah ben moi, oui, j'ai refusé de plonger, ça c'est sûr. Oui, tu parles des requins chagrins. En plus, le film est complètement coupé en deux, sans aucune communication possible entre les deux.
Enfin, en trois, parce que tu as une partie au début.
Oui, mais enfin, bon, très bien.
Et la, puis, rencontre voilà, en vacances, la rencontre après, et puis, t'as la grande période parisienne.
Sans communication possible. Non, alors, c'est l'histoire d'un mutique et d'une enquiquineuse. Bon, d'accord, ils sont très amoureux et ça fait quelques scènes jolies, parce que, bon, très bien.
Mais voilà. Elle n'est pas enquiquineuse, elle est malheureuse.
Oui,
mais
elle est un peu enquiquineuse.
Elle est quand même très enquiquineuse. Non, hein. Elle n'est jamais contente. Ah bon, elle est photographe, d'accord, elle fait des photos. expos, mais ça va pas, les expositions, ça va pas. L'amour, c'est pas terrible, ça va plus. Et puis, elle est enceinte. Ah, ben, je suis enceinte. Ah, je suis content. Ben non, ben moi, je suis pas contente. Bon, arrive un magnifique bébé. On a un gros plan du bébé. Après, on voit plus le bébé parce que personne s'en occupe.
Si, c'est le père. Le père s'en occupe.
Oui, ben, parce qu'il est,
il se retrouve tout seul.
Il se retrouve tout seul avec ce bébé. Bon, ben, lui, il fait ce qu'il peut.
J'aimerais t'y voir.
Ah ben non, moi j'aimerais pas m'y voir. Alors non, mais je veux dire, c'est absurde. Enfin, je veux dire, on n'arrive pas véritablement à comprendre comment elle a pu nouer les fils de ce couple. Enfin, c'est
un roman de gueule.
Le roman était bien. Non.
Oui, mais c'est un roman de gueule. Le film est un roman de gueule.
Mais c'est ce que le reproche que je fais à Mélanie Laurent.
Mais
le roman était bien.
Gilles Lelouch est bien, il fait vraiment ce qu'il peut, mais il peut rien. Bon, voilà, il ne peut rien.
Bon.
Voilà.
Sophie,
j'ai pas envie de le voir.
Plongée.
Il y a deux grands lâches à cette table.
Ah non, c'est pas la lâcheté.
Plongée de Mélanie Laurent. Elle avait fait juste avant, c'était un documentaire qui a très bien marché.
Co-réalisé. Ouais.
Voilà,
oui.
Qu'elle avait co-réalisé. Retour à l'Estaque dans la villa.
Demain, ça s'appelait Demain.
Demain, oui. Voilà. Retour à l'Estaque dans la villa de Robert Guédiguian avec ses fidèles. Ils sont d'ailleurs un peu les nôtres maintenant.
Ah, oui.
Ariane Ascari, Jean-Pierre Darroussin, Gérard Mélan, Jacques Boudet, mais aussi Anaïs de Moustier pour ce film et Robinson Stevenin. Et donc ils sont tous là, dans une de ces calanques chères au cœur du Marseillais Robert Guédiguian. C'est l'hiver, le vieux père se meurt et autour de lui, sa fille Angèle, c'est Ariane Ascari, une actrice qui revient après 12 ans d'absence, et ses deux frères, Joseph et Armand, c'est Darroussin et Mélan, ce dernier d'ailleurs tenant le restaurant ouvrier qu'avait créé le père dans un esprit généreux, fraternel, et autour, bien sûr, les promoteurs immobiliers qui s'apprêtent à raser ce lieu magique où débarquent trois jeunes réfugiés. J'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de presque testamentaire. Or, il n'est pas si âgé que ça, quand même, Guédiguian, dans ce film. Alors, sinon testamentaire, du moins bilan d'une vie, de ses engagements, de ses passions, d'ailleurs, et puis aussi de ses engagements politiques, oui. Sophie.
Moi, ce qui m'a frappé quand le film a décanté, ce qui m'est resté en tête, c'est la façon dont, justement, par cette alchimie entre sa mélancolie et son optimisme mêlé, il arrive, dans un même mouvement, à filmer le début et la fin. D'ailleurs, l'ouverture qui est très 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 belle, c'est ça. C'est-à-dire, on voit l'aube se lever, le soleil inonder la mer, va se refléter sur la mer, c'est absolument sublime. Et c'est un vieil homme qui est en train, sinon de mourir, du moins de flancher. Et donc, c'est comme si on assistait à un levant et un couchant en même temps, enfin, un crépuscule et un... Et je trouve que tout le film est à l'aune de ce double mouvement contradictoire et en même temps qui fait fusion. Ah, parce qu'il filme ça en même temps, et je trouve qu'il transcende tout. C'est-à-dire que finalement, c'est l'histoire de sexagénaires qui, en effet, font le bilan de leur vie et font des comptes qui sont assez moroses, et qui pourtant vont relever le gant du futur, et qui pourtant vont renouer avec la vie au moment où ils sont en droite ligne, disons, ils ne sont pas très vieux, mais enfin, ils sont quand même sur le moment d'en finir.
Mais sans qu'on soit convaincu que Guédiguian y croit encore, quoi.
En tout cas, il trouve le moyen d'y recroire. Oui. Enfin, il est à la fois dans le Tchekhov, la mélancolie tchekhovienne, et en même temps, parce que c'est sa nature aussi, il rebondit, et c'est ça qui est magnifique, parce qu'il rebondit par le haut. Mais c'est pareil avec les couples, il aborde pour la première fois ce sujet des couples qui n'ont pas le même âge. Là, il y en a deux qui sont en miroir les uns des autres. Et là, c'est pareil, il y a un couple qui se sépare, un autre qui naît. Et là encore, les deux s'emboîtent l'un dans l'autre. Et je trouve que tout le film peut être regardé à l'aune de ça qui l'élève vraiment. Après, on retrouve ses obsessions politiques, le café ouvrier,
avec,
tout ça.
Avec, quand même, je le précise, des moments d'humour. Hein, parce qu'il ne faudrait mélancolie triste. Daniela.
Ah, moi, je trouve que c'est absolument magnifique. Tu parles de testament, moi, je parle de bilan.
Oui, c'est ça, bilan.
Il reprend tout. Il reprend ses acteurs, il reprend son utopie, il reprend la paire des illusions. C'est une sorte de, comme il le dit lui-même, de huis clos à ciel ouvert, ce décor unique, ce train qui passe sur cet aqueduc avec ce fracas, le fracas de la vie, et puis tout ça qui est rassemblé. Effectivement, le premier plan, on peut raconter le premier plan, c'est en effet ce vieil homme qui est sur la terrasse de cette villa, qui est un personnage principal, et il dit « tant pis ». Et tout le film, l'effort de ce film, c'est de dire « non, pas tant pis, il y a encore quelque chose à espérer, il y a encore quelque chose
même
à renouer ».
Même si les promoteurs rôdent autour en bateau,
je veux dire,
c'est
là,
incroyable.
Moi, j'ai pleuré absolument tout le temps. J'ai trouvé ce film profondément émouvant. Et alors là où Guédiguian vraiment m'a enchanté, c'est qu'il arrive a sublimé l'écueil absolu de l'arrivée des petits migrants sur la colline. On s'est dit, oh mon Dieu, des petits migrants sur la colline, comment il va s'en sortir? Eh ben, il s'en sort.
Oui, et puis c'est ce qui donne un peu de l'avenir.
Mais voilà, et de
à
l'avenir.
Ses engagements.
Et la façon, dont ces petits migrants sont accueillis.
Mais surtout vu le passé du personnage.
Oui, le film est vraiment très émouvant. Moi, j'ai une réserve, et je vais commencer par là pour dire ensuite ce que j'aime beaucoup dans le film. Je pense que dans les deux versants du film, il y en a un qui est moins réussi que l'autre, et je trouve que le drame familial, avec une tragédie vécue par le personnage d'Ariane Ascaride, qui explique la raison pour laquelle elle s'est éloignée, et qui est distillée par une série de flashbacks, je trouve que le procédé est un peu artificiel, et que peut-être quelque chose
si
de moins lourd.
Jean-Marc, je dis ça, mais pas trop de réserve. On a vu quand même de tellement mauvais films ce soir.
Non.
Là, j'ai envie de dire, c'est
une fois que j'ai pointé
quelques
rapides réserves. Puisque je n'ai pas le droit d'exprimer cette réserve.
Non, mais tu vois ce que
je veux dire. Ce point artificiel, je trouve le film très réussi. Donc, je vais dire ce que j'aime beaucoup dans le film. D'une part, je trouve que vraiment on voit à quel point Robert Guédiguian est vraiment très fort sur la mise en scène. Je trouve qu'il y a un sens du découpage, de l'aptitude à camper un lieu par l'agencement des plans qui est vraiment très très fort. Et la scène où on découvre trois enfants en train de s'alimenter dans la forêt comme une société primitive est vraiment un moment de cinéma des plus forts que j'ai vu cette année.
Pierre ?
Non, mais je ne suis pas trop entré dans le film. Mes camarades de Télérama délirent, c'est le film de l'année pour eux.
J'ai vu la...
Ah oui, oui, non,
les,
non, mais
la tête, les petits personnages,
ils sont tous comme Daniel, en larmes, ils ont pleuré tout le temps.
Tous, pas toi ?
Pas moi. Moi, je trouve que c'est une... Enfin, non, mais c'est moi qui ai tort. Il peut arriver que ce soit le critique.
Mais tu peux t'exprimer.
Oui, t'as le temps.
Je trouve que c'est un peu vieux tout ça. Je suis désolé, mais Guédiguian est un metteur en scène qu'on a tous aimé, qu'on a tous défendu.
Mais par exemple, ça dépend les films. Hein.
Pas très bon.
Quand c'est quand même le retour à son meilleur niveau.
Par exemple, quand on voit une séquence qui intervient dans le film, d'un de ses premiers films, qui s'appelle Kilosa, et qui est brusquement, on voit quand même. Bien sûr que ça sert son sujet, puisque ce sont des gens mélancoliques, alors que dans Kilosa, il y a 25 ans ou 30 ans, ils étaient enthousiastes. Mais voilà, je trouve que la mélancolie est pas loin d'une certaine mièvrerie. Alors, tout ce que vous avez dit est vrai sur les nouvelles amours, l'espoir, mais j'ai vraiment l'impression d'avoir vu le film d'un très vieux monsieur.
Tu peux pas dire ça.
Sur la mise en scène, tu peux pas dire ça.
C'est une façon de parler, évidemment.
Mais
ça me semble extrêmement juste.
Je dis que j'ai sûrement.
Je trouve qu'il y a au contraire une compréhension du monde contemporain.
Moi, je suis resté là en disant.
Une lucidité. Il est extrêmement connecté au monde dans lequel on vit. C'est pas du tout le.
Mais non, pas vraiment. Mais non, c'est finalement un petit monde qui ne veut plus dire grand chose, ou en tout cas qui ne me dit plus rien à moi. Mais puisque tout le monde pleure, pleurons.
Voilà. Non, mais je voudrais rajouter que le film est extrêmement douloureux et en même temps, il termine sur une note d'espoir.
La villa de Robert Guédiguian, pas de réaction sur ce film, non. Très rapidement, parce que le temps passe trop vite, j'avais inscrit La Lune de Jupiter, qui était en compétition à Cannes. Film du Hongrois Cornel Mundruczó. Je crois que tu l'aimes, ce film-là.
Je suis le seul.
J'en reviens pas. C'est un film sur les migrants, mais version allégorique, pour ne pas dire miraculeuse, puisque le jeune Syrien qui se fait tirer dessus au début, en passant illégalement une frontière, se découvre en effet un pouvoir assez étrange, puisque comme le Christ, il ressuscite et il évite. Alléluia. Parqué dans un camp de réfugiés, il s'en échappe avec l'aide d'un médecin qui va vouloir exploiter les dons d'Ariane. Ils sont pourchassés par un affreux policier hongrois. Tout ça dans une lumière d'aquarium et dans un style, mais d'un emphatique, mais d'un, d'une emphase, incroyable.
J'accepte. Je trouve ça absolument, mais d'une audace. D'ailleurs, c'est le mec qui avait fait, il y a quelques années, un film qui s'appelait White Dog sur des chiens, un chien qui faisait le Spartacus, quoi. C'est le Spartacus version canine, qui était formidable. Moi, j'aime beaucoup ce type pour son audace. Imaginez quand même un migrant qui arrive, qui est tué.
Je viens de le raconter.
Qui devient un ange. Et ensuite, il en fait autre chose. C'est-à-dire qu'il n'idéalise rien. C'est pas du tout un film, comme je l'ai lu dans certains journaux que j'aime, bondieusard. Ça n'a rien de bondieusard. C'est un film, au contraire, cruel, mais une fable, en effet, puisqu'il y a d'autres migrants qui arrivent et qui ne sont pas ni des anges, ni des saints, ni Jésus. Ce sont des gens qui fomentent des attentats. Et alors, techniquement, il y a quand même...
Techniquement, c'est très dur de ressusciter les gens.
C'est absolument génial. Mais c'est digne des signes du grand cinéma américain. C'est une curiosité, allez-y. Vraiment, ça change de mièvrerie.
C'est une curiosité. quelques mots.
Oui, de cette très belle idée d'élévation et d'archange, effectivement, je trouve qu'il ne fait rien. Non, mais tu dis qu'il en fait quelque chose de génial. Non, il court d'ailleurs, il court après son sujet. Il n'arrive pas à trouver le vrai sujet. C'est un sujet sur la foi, mais il le trouve pas. Il dit que c'est le deuxième opus de sa trilogie sur la foi. Mais j'ai jamais vu un film aussi peu spirituel que ça. Il n'en fait rien. Alors il le montre léviter plusieurs fois,
mais
c'est tout ce qu'il montre. Et surtout, il a une mise en scène qui est qu'à les pattes. Il ne fait que de les pattes avec de l'emphase et de les pattes. Oui. Et il y a un moment donné, je trouve indécent la façon qu'il a de filmer ses réfugiés. Elle me met mal à l'aise. Je la trouve indécente. Je trouve que ça ne marche pas du tout.
Parce que Guédiguian, quand il filme les migrants, c'est pas.
C'est beaucoup plus beau. Je suis désolée. C'est beaucoup plus humain. Et là, franchement, il fait les pieds au mur. C'est tout ce qu'il fait, quoi.
Non, mais je suis d'accord avec Sophie. Je trouve le film clinquant. Tout veut faire cinéma. Et c'est une espèce de bouillie métaphorique qu'on ne sait pas trop par quel bout prendre.
Daniel.
Bon, c'est un thriller christique. Effectivement, quand le héros, après avoir
l'évité... C'est même pas un thriller, d'ailleurs.
Si, parce que tout à coup, il y a des poursuites en voiture. Tout à coup, il y a des films de genre qui se greffent là-dessus. Alors, c'est vrai que quand le héros dit « Mon père était charpentier », évidemment, là, quand même, si on n'a pas compris. Bon, mais... Moi, j'ai une énorme indulgence pour ce film, comme j'aimais beaucoup White Dog, parce que c'est quand même une critique d'une férocité sur son propre pays. Il est quand même hongrois. Et ce qu'on voit de ce qu'est la Hongrie d'aujourd'hui dans le régime hongrois.
Mais
non, on le sait, nous.
Mais il y a un problème.
C'est quand même un metteur en scène hongrois qui dit de son pays quand même des choses qui ne sont pas faciles à dire. Voilà, donc j'ai une indulgence.
La Lune de Jupiter, et c'est donc de Cornel Mundruccio. Et j'avais inscrit évidemment le document. De Raymond Depardon, 12 jours.
Splendeur.
Une plongée. C'est pas le mot que j'utiliserais, mais en tout cas, une plongée impressionnante. Non, mais tu dis une splendeur comme
si
on allait.
Une splendeur de réalisation, d'honnêteté. Voilà,
on n'est pas vraiment non plus aux folies bergères. Tu vois,
certainement.
C'est le face-à-face entre les juges et les fous. Hein, puisque 12 jours, je rappelle, selon la loi de 2013, c'est le délai maximal entre l'internement sous contrainte du malade et son audience au tribunal. Pour tenter d'obtenir une libération que, d'ailleurs, il y a des personnages incroyables dans ce film. On le conseille tous, Jean-Marc?
Oui, c'est vraiment d'une puissance inouïe. Ce qui est très très beau, c'est que toutes les personnes qui apparaissent représentent une psychopathologie différente et qu'en même temps, ça fait jamais échantillonnage. C'est-à-dire qu'ils ont tellement une vérité en eux qu'on se dit, tiens, c'est un catalogue en fait de différentes maladies psychiques. Et sur la mise en scène, c'est génial parce qu'il y a quasiment que trois valeurs de plan. Un champ, un contre-champ et un
caméras,
plan.
Trois caméras.
Voilà, et un plan qui est légèrement décalé. Et à partir de ça, la puissance du rendu est incroyable alors que le dispositif est aussi minimal.
Ah, c'est magnifique.
Oui, l'histoire incroyable de ce type qui demande qu'on rassure son père.
Et dont on ne peut pas dire exactement ce...
Si, on peut le dire.
Bravo, Pierre. On peut le dire. On peut le dire, là.
C'est pas un thriller.
Ah oui, mais quand même, quand la juge dit ce qui est arrivé, on a un petit choc quand même.
Faut l'encourager quand même.
Pour une fois,
quand ça vient d'en haut, c'est tellement fort.
Ne pas me révéler.
Bon, ok, d'accord. Allez,
juste.
Je le dis pas. Non, j'ai rien dit. Bon, Pierre.
Non, mais c'est sur la. Bah oui, c'est un film sur la fragilité de ces gens et puis notre fragilité à nous, puisqu'on s'aperçoit quand même que la frontière est extrêmement mince.
En fait, exagère. Attends.
Non, mais attends.
Ah bah si. Si, moi je suis désolé, c'est un film angoissant pour ça, bah si, bien sûr que oui. Mais c'est pas du tout comme, moi je l'ai pas pris en tout cas comme les thèses des années 70 où on disait que les fous nous révélaient à nous leur vérité. Moi, ce n'est pas ça que j'ai vu dans le film, c'est au contraire l'extrême peu de frontières qu'il y a entre la folie et la raison. Voilà.
Enfin, moi, ce que j'ai senti, c'est surtout la détresse.
Détresse, énorme.
Cette femme qui va rentrer chez elle pour sauter du troisième étage, on peut le raconter. Non, mais je veux dire, c'est pas... C'est une forme de détresse,
oui,
pour moi.
Ben oui, bien sûr.
T'as l'air de dire qu'on est tous au bord d'entrée à l'hôpital psychiatrique. Il faut pas exagérer.
Non. Je dis pas ça.
Oui, mais le burn-out de la Dame de chez Orange, c'est quelque chose qui est beaucoup plus proche de nous. Enfin, il y a des degrés.
On a tous une dame d'orange en nous.
Mais cette capacité qu'a vraiment de voir dans tous ces documentaires, que ce soit San Clemente, asile psychiatrique ou flagrant délit, c'est de faire totalement oublier sa présence. Je veux dire, on est exactement dans son sujet, avec les gens qu'il regarde, et on est avec eux. C'est-à-dire que ça, c'est une capacité inouïe. Et dans ce film-là, de temps en temps...
Avec la musique d'Alexandre Desplat, qui est très, très discrète.
Très discrète.
Mais c'est rare qu'il l'utilise.
La façon dont on sort de temps en temps de cet enfermement simplement pour voir des grilles fermées et un paysage gris. Je veux dire, c'est du grand
Depardieu. C'est l'hôpital Le Vinatier de Lyon.
Voilà, c'est du grand Depardieu.
C'est un très grand film, mais ce que vous dites pas, c'est que ça montre du doigt de manière très violente les limites du système. Et je trouve que cette loi qui est censée protéger et être un garde-fou sans mauvais jeu de mots de la parole des psychiatres, de vérification des juges, ce que ça montre, c'est l'impuissance des juges. D'ailleurs, à un moment donné, en plaisantant, la juge dit « Oui, vous avez raison, on ne sert strictement à rien. » Et c'est une boutade, mais enfin, c'est ce qu'on entend. Et face à la détresse de ces gens cette loi, elle est là pour remplir le système. Et je suis du côté de la loi. Mais quand on entend la détresse de ces gens-là, on voit que ce système qui est censé empêcher les abus de pouvoir nous fait toucher du doigt est en plein abus de pouvoir.
Excuse-moi.
Ils sont montrés quand même.
Non, mais effectivement, c'est une disposition qui est de la loi. Mais c'est 12 jours.
Mais
comment tu veux.
Ils sont impuissants. Mais je ne les accuse pas. J'accuse pas les juges.
Mais c'est ce que dit Depardieu.
D'accord. Mais c'est terrible. Moi, je suis sortie indignée. Cette pauvre fille à la fin qui dit bon, mais moi, je veux bien rester. Je comprends. Je suis un peu fragile. Mais j'aimerais bien voir ma fille quand même. Et la juge balaye ça en disant vous ferez appel. Mais c'est complètement dingue, quoi. On voit bien que le système, il est à bout. Il fait ce qu'il peut, bien sûr. Je dis pas qu'il devrait faire mieux. Je dis juste que le film, il nous montre ça. Moi, j'en suis sortie indignée, mais pas contre le film ni contre les juges, mais qu'un système comme ça puisse exister. Mais même cette femme qui veut se balancer par la fenêtre, il y a un moment, on a envie de lui dire, c'est sa vie, foutez-lui la paix, quoi. Je suis désolée, moi, je ressens ça comme ça. Et c'est là où le film est super fort, parce qu'il est en colère.
12 jours, et c'est le documentaire de Raymond Depardon. Avant de vous laisser rapidement conseiller un film, je vous rappelle le lancement du 28e prix des auditeurs du Masque et la Plume. Il vous suffit de désigner le film français, le film étranger que vous avez préféré en 2017 et de nous l'écrire soit sur une carte adressée à la Maison de Radio France 116 avenue du Président Kennedy, Paris 16e, soit en envoyant un courriel sur le site de l'émission franceinter.fr jusqu'au 28 décembre. Le conseil de Sophie.
Eh bien, je conseille en période de fête de Noël le magnifique coffret consacré à l'œuvre intégrale de Solveig Anspach.
Ah, que j'ai reçu aujourd'hui. Quel
bonheur. Qui est édité. Alors en plus, il est vachement bien édité parce qu'il y a évidemment tous ses films documentaires. Je n'avais pas réalisé qu'on avait fait autant de films documentaires, les courts, les longs. Sa fiction aussi. Il y a beaucoup de fiction. Il y a une dizaine de films de fiction. Ça va évidemment de Haut les cœurs au dernier merveilleux L'effet aquatique. Il y a un livre en plus, il y a des extraits comme toujours, enfin c'est vraiment très beau. Et c'est une coédition, je crois, du Pacte, de Blackout et de Ex Nihilo.
Solveig Anspach en coffret, Daniel.
Alors aussi, pour les fêtes de Noël, les quatre courts-métrages, Le Retour d'Ernest et Célestine, et toujours cette douceur des dessins d'aquarelle, et toujours cet ours marginal et cette petite souris orpheline.
Et pour quatre, tout public. Hein.
Pour tout public, c'est absolument une merveille. Il leur arrive plein de choses, ils sont toujours en train de rechercher des choses et beaucoup d'aventures. Quatre courts-métrages, une petite merveille.
Le conseil de Jean-Marc.
Également un coffret Blu-ray DVD. Trois films de Brian De Palma, Blowout, Pulsion et Fury, qui sortent chez Carlotta en version restaurée avec plein de bonus critiques. C'est absolument trois chefs-d'œuvre.
Le conseil de Pierre.
Alors, mercredi prochain va sortir en salle un documentaire qui est aussi en même temps une fiction qui s'appelle Makala, qui veut dire charbon, de Emmanuel Gras. Emmanuel Gras avait fait déjà un film totalement remarquable qui s'appelait Bovine.
Ah, c'était formidable.
Bovine, qui était formidable. Et là, il suit le chemin qui va de son petit village jusqu'à Colvézi, d'un jeune homme qui vend à la ville du charbon de bois. Et rien que le parcours pendant trois jours de ce type-là, avec son petit vélo, avec du charbon de bois qu'il va essayer de vendre, parce que ça va faire...
Mais qui tient sur le...
Oui, absolument.
Sur un vélo, c'est génial.
C'est génial. C'est un film absolument formidable.
Ça commence par l'arbre
l'arbre. Ensuite, on le voit dans la ville rendre visite à sa famille. Mais le cœur du film, ça rappelle absolument les grands films humanistes de Sica. Enfin, il y a une espèce de regard de tendresse sur ce type. Ça s'appelle Makala et vraiment, c'est magnifique.
Très envie de le voir. Merci pour tous ces conseils que vous retrouvez sur le site du Masque et la Plume, franceinter.fr. Merci Sophie Avon, Daniel Eman, Jean-Marc Lalanne et Pierre Murat pour cette émission qui était comme chaque semaine présentée par Jérôme Garcin avec la collaboration de Lysiane Selam. Ce soir, À la technique, au Charles Trenet, je les remercie, Philippe Mercher, Julie Garraud et Antoine Viossal. La réalisation était de Didier Lagarde. Vous notez bien, s'il vous plaît, que le prochain enregistrement du Masque et la Plume aura lieu le jeudi 14 décembre à 20h au studio Sacha Guitry de la Maison de Radio France pour deux émissions, l'une consacrée au film, l'autre au livre. Dans une semaine, on parle de théâtre et je vous dis à dimanche prochain sur France Inter, évidemment.